Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc aujourd'hui Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et délégué général de La République En Marche.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL ce matin. Vous étiez donc au théâtre de Chaillot hier. Vous avez suivi évidemment l'interview du chef de l'État. Interview présidentielle inédite sur la forme. C'est lui qui avait choisi les deux intervieweurs. On l'a senti parfois irrité, énervé, assermenté. Vous l'avez vu après coup, il était content ?
Alors j'ai échangé avec lui après coup, parce que si j'étais là au début, j'ai ensuite rejoint des militants qui regardaient avec à plusieurs centaines le président de la République. Donc j'ai préféré l'ambiance militante à l'ambiance feutrée du studio.
Mais après, vous avez échangé avec lui, et alors ?
Oui, j'ai échangé avec lui avant, après. Vous avez tout à l'heure utilisé le mot de ring pour présenter ce débat. Effectivement, on était moins dans un exercice classique d'échange avec un journaliste qui vous interviewe, mais plutôt de débat. Et donc, on a eu un président qui savait encaisser, qui savait castagner aussi quand c'était nécessaire. Il a, je crois, tenu le débat, parce qu'on est effectivement sur quelque chose de viril, de physique. Il a montré avec...
Mais c'était ça le but, de démontrer qu'il est encore capable de descendre dans l'arène, finalement, comme pendant la campagne. Il était moins jupitérien, effectivement, hier soir, que boxeur.
Non, mais il y a eu deux temps de rencontre avec les Français. Celui de jeudi, dans l'émission dans le 13h de Jean-Pierre Pernaut, où il a été plus en dialogue avec un journaliste pour aborder tous les sujets du quotidien
interview
que vous
classique,
connaissez bien.
Oui.
Voilà, et que sujet sur lequel vous-même êtes revenu et où revenez assez régulièrement. Et il a tenté de faire montre de pédagogie. Et puis hier, on était sur quelque chose de plus politique, on va dire. Et donc, il a montré aussi cette capacité qu'il a. Mais ça a permis, je crois, d'abord de montrer qu'il pouvait parler à tous les journalistes avec qu'on lui reproche sa parole rare. Il a montré qu'il n'avait pas peur de la parole, mais qu'il ne voulait pas une présidence bavarde.
Ouais. Mais est-ce qu'il était convaincant pour les Français ? Puisque c'est ça quand même le but. C'était la grande intervention un an après son élection. Est-ce que de ce point de vue-là, le but a été atteint ? Est-ce qu'il a atteint les Français ? Vous dites que c'est plus politique, ce n'était pas un peu excluant ?
Non mais d'abord je ne suis pas bon juge pour vous dire est-ce qu'il a atteint,
vous non, savez comme moi que je ne suis pas, je ne suis pas objectif,
mais je pense que c'est un ensemble de temps de communication avec les Français. Vous savez qu'il aime aussi ce contact direct, mais il y a des moments plus médiatiques, des moments de confrontation avec des journalistes.
On vous sent
et
pas
avec
emballé,
ces deux-là. Non, mais moi, je crois que c'est sur l'ensemble de la communication qu'il faut juger cela. Hier, c'est un combat, tout à l'heure, Alba Ventura a évoqué un combat de coq. C'est un mot que j'ai repris moi-même hier soir dans mes commentaires avec les proches avec qui j'étais, et des combats de coq. Effectivement, on voit de la détermination, mais on ne voit pas toujours suffisamment la pédagogie.
Il y avait un peu d'égo, il y a un peu trop.
Oui, il y avait beaucoup de masculinité, dans le mauvais sens du terme, peut-être.
Bon, ben voilà pour la forme du débat à refaire.
Écoutez, le président a dit chiche à nouveau. Il avait dit chiche, je crois, il y a un an, Edwy Plenel.
Bon,
c'était aussi un engagement qu'il avait pris. Il l'a tenu. Et donc, je ne doute pas qu'il le tiendra à nouveau.
Alors, sur le fond, il était assez souvent en défense de sa politique. Il n'y a pas eu beaucoup d'annonces. Mais on va revenir sur l'idée d'un jour férié supprimé pour financer le cinquième risque, c'est-à-dire celui de la dépendance. Je ne suis pas contre. C'est une piste intéressante, a dit le chef de l'État. Le gouvernement va regarder. Une décision pourrait être prise dans l'année.
Écoutez, il faut se projeter à moyen terme. Moyen terme, c'est quoi ? Aujourd'hui, vous avez 1 700 000 personnes de plus de 85 ans qui sont dans des EHPAD, dans des maisons de retraite. Quand on se projette à 2050, c'est-à-dire demain, il y a 5 millions de personnes qui auront plus de 85 ans.
Ça,
donc,
c'est
de
l'enjeu.
Toute façon, il faut partir de ce diagnostic-là et se donner les moyens d'accueillir mieux les personnes qui sont accueillies dans les EHPAD et de donner une meilleure condition de travail à ceux qui travaillent dans les EHPAD. Et donc, il va falloir trouver des moyens. Une des hypothèses, c'est celle-ci. De toute façon, elle ne suffira pas. Il va falloir tout mettre sur la table. C'est la méthode de ce gouvernement.
Mais
on parle d'un diagnostic.
Elle va être examinée dès cette année 2018, puisqu'effectivement, le financement de la dépendance, c'est quelque chose dont on parle depuis 2005, la création du cinquième risque. Est-ce que ça va être regardé dès cette année ?
Mais le
Vous
débat
ne
est
le savez
ouvert.
Pas.
Non, mais le débat, non, je n'ai pas le calendrier précis, mais le débat est ouvert dès cette année, parce que ce gouvernement a comme particularité de ne pas repousser à plus tard des décisions qu'il faut prendre aujourd'hui, même si elles auront un impact en 2040, en 2050. C'est aussi ça, notre sens de la responsabilité.
Supprimer un des 11 jours fériés annuels, c'est donc une piste qui va être regardée. Vous ne savez pas encore quand et à quelle échéance pour sa mise en œuvre non plus. Vous laissez pour l'instant la chose très ouverte, on va dire.
Oui,
c'est
comme,
ça
comme le président de la République hier, qui n'a rien voulu exclure, mais qui n'a rien montré d'indication
c'est une piste
de décision.
Comme une autre. Le président a été interrogé sur ses choix fiscaux en faveur des plus aisés. C'est vrai qu'on reste perplexe sur RTL, puisque Benjamin Griveaux, jeudi au micro de Marc-Olivier Fogiel, a dit textuellement « Si la baisse de l'ISF ne réoriente pas l'argent vers les entreprises, et donc l'emploi, si les choses ne fonctionnent pas, on n'a aucune raison de les maintenir. » Le vieil ISF pourrait revenir ?
Non, mais il faut peut-être du coup...
Non, oui.
Si, non, mais les termes de Benjamin Griveaux sont justes. Et nous n'appartenons pas à une famille politique qui s'enferme dans des dogmes. Nous pensons, et la démonstration a été faite partout en Europe, que l'ISF est un mauvais impôt, qui en réalité chasse la capacité d'investir dans nos pays.
Si vous me permettez, on ne va pas refaire le débat parce qu'on a eu l'occasion de le faire. Est-ce que si
le
ruissellement des investissements vers l'entreprise échoue, puisque c'est le but, les mots ont un sens, si les porte-paroles.
Le ruissellement n'est pas un but, n'a jamais été un but pour nous, et nous ne fonctionnons pas sur cette théorie-là à laquelle nous ne croyons
plus
pas.
Plus les personnes riches ont de l'argent, plus elles vont vouloir ou pouvoir par des investissements
le choix qui n'a pas... Justement, ça tombe bien, ce n'est pas le choix que nous faisons. Le choix que nous faisons, c'est celui d'éviter aujourd'hui que l'investissement dans l'emploi, dans l'économie, dans l'entreprise, soit pénalisé par l'impôt. Alors même que l'investissement dans la pierre, dans la rente, ne l'est pas. Et donc aujourd'hui, l'ISF est maintenu pour l'investissement dans la rente, pas dans l'entreprise. Si ça ne marchait pas, nous veillerons effectivement à cibler ces investissements vers l'entreprise pour renforcer le financement de nos entreprises.
Donc l'hypothèse qui est sur la table, ça n'est pas de faire revenir l'ISF, c'est de réorienter les choix d'investissement de façon
l'hypothèse.
Un petit peu plus autoritaire.
Non, mais l'hypothèse qui est sur la table, c'est que ça marche. Aujourd'hui, mesures...
Soyez sérieux, il faut étudier toutes les hypothèses.
Mais vous savez, être optimiste, c'est pas ne pas être sérieux. Mais on peut aussi, effectivement, penser qu'il faut critiquer, se lamenter tout le temps, mais aussi, on peut aussi faire confiance dans notre économie. On voit cette année que pour la première fois depuis une dizaine d'années, on recrée des emplois dans l'industrie française. Donc moi, j'ai plutôt envie d'être optimiste. Et aujourd'hui, on a mis en place toute une série de mesures. On poursuit d'ailleurs une partie de l'action de François Hollande qui avait mis des mesures aussi en faveur de l'entreprise. Et ce sont ces mesures-là qui portent leurs fruits. Et donc commençons par être positifs avant d'anticiper qu'éventuellement, peut-être, ça ne marchera pas. Soyons fiers de notre économie française et de la France.
Christophe Cassaner, vous êtes favorable ou non au voile porté par les mères accompagnatrices en cas de sortie scolaire ?
Vous savez, le président de la République en a parlé longuement hier. Le Conseil d'État s'est prononcé sur ce sujet.
Oui,
si
enfin,
on est dans le cadre... Non, mais le Conseil d'État
c'est
a été
cas
très
par
clair.
Cas, c'est...
Non, mais le Conseil d'État ne dit pas ça. Si on est vraiment dans le cadre d'une organisation scolaire, à ce moment-là, le port du voile peut être gênant pour des enfants qui n'ont pas la culture et qui ne comprennent pas forcément le fait religieux. Le Conseil d'État a bien précisé que si c'était des parents qui juste accompagnaient une sortie, les mamans seront libres de porter le voile. Si on était dans le cadre d'une journée d'insertion dans l'école, liée à l'école, dans ce cas-là, le voile ne doit pas être porté.
Mais concrètement, est-ce qu'il va y avoir une loi, est-ce qu'il va y avoir un texte ou un règlement qui va figer quand même cette préférence présidentielle ? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est au cas par cas.
Non, ça n'est pas nécessaire.
Ça n'est pas nécessaire.
Ça n'est pas nécessaire parce que le Conseil d'État
s'est
prononcé.
Donc on a un ministre qui a une conviction, un président qui en a une autre.
Non, mais vous
finalement,
avez
les chefs d'établissement, ils font quoi ?
Mais ils appliquent la règle qui a été fixée par le Conseil d'État. Je pense qu'on n'a pas
c'est
besoin
pas
de faire...
Ce n'est pas tout à fait une règle juridiquement. Vous vérifierez, ce n'est pas une règle.
Mais c'est une décision du Conseil d'État qui met en cadre la distinction entre deux moments liés à l'école.
Bon, et donc vous estimez que on doit rester sur...
Je pense que cela suffit et que c'est pas nécessaire.
Juridique, c'est pas la peine de préciser.
Non, c'est pas vous pensez qu'une décision du Conseil d'État est un vide juridique.
C'est pas tout à fait une
décision. Moi
ça,
ma formation de juriste me fait penser qu'une décision du Conseil d'État est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Mais ce que je pense, c'est que c'est pas nécessaire d'ouvrir des débats qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que il y a un grand débat en France sur le fait que, et on parle du voile, il y a des mamans qui à un moment donné puissent rencontrer des enfants alors qu'elles portent le voile. Je pense pas que ce soit un sujet.
C'est un sujet. On y reviendra, mais pour vous, Christophe Castaner, ce voile, cette règle religieuse, est-ce qu'elle marque ou non une forme de domination de l'ordre masculin sur l'ordre féminin ?
On s'est posé la question il y a quelques années, quand toutes les femmes catholiques portaient un voile ? Je ne crois pas.
On n'est pas tout à fait dans le même contexte, les choses ne se posent pas de la même façon aujourd'hui.
Non, mais il y a quelques années, quand en France, y compris nos mamans portaient un voile, portaient le voile des catholiques, on ne se posait pas ce genre de questions. Je fais une vraie différence entre le voile et la burqa ou le niqab, qui effectivement sont deux choses totalement différentes.
Le président a évoqué aussi le texte asile-immigration, la loi qui arrive aujourd'hui dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Les députés La République en marche, vous êtes, je rappelle, à la fois le ministre des Relations avec le Parlement et le président du parti, du mouvement, secrétaire général, directeur général, je ne sais plus.
Délégué général,
merci. Les députés en marche qui s'abstiendraient, ou pire, qui voteraient contre après les débats, ils manqueraient de solidarité avec le groupe parlementaire. Il y a une ligne rouge là ?
Oh ben d'abord, les lignes rouges sont fixées par le président du groupe et pas par moi. Mais effectivement, il manquerait de solidarité parce qu'une décision collective emporte le collectif. Et en plus, comme elle est conforme, ce texte de loi, à la philosophie, aux engagements du président de la République, je pense qu'il ne faut pas négliger sur quelle base ils ont été élus. Le discours de Montpellier d'Emmanuel Macron sur le sujet qui est traduit aujourd'hui dans la loi Asile et Migration est extrêmement clair.
Oui, il n'y a pas de tout. Par exemple, est-ce que vous avez déjà visité un centre de rétention ?
Moi, oui.
Ouais. Les députés de La République En Marche qui l'ont fait sont revenus absolument bouleversés. Et certains veulent introduire un amendement pour que les mineurs ne soient pas automatiquement placés en centre de rétention. Parce qu'en plus, le texte, la nouvelle loi, dit qu'on pourrait y rester jusqu'à 90 jours. Est-ce que vous trouvez humain de laisser des mineurs dans des centres de rétention ?
Je pense que certains centres de rétention,
les avez visités.
Non, mais je pense que certains centres de rétention ne seront pas à la hauteur et c'est pour ça qu'on veut mettre des investissements importants dans les centres de rétention. Ensuite, je pense que si vous voulez séparer des enfants mineurs de leurs parents, parce que vous placez les parents en centre de rétention, vous devez aussi vous interroger sur ce que vous faites des mineurs. Et est-ce que vous acceptez de les séparer ? Moi, je pense qu'il faut adapter nos centres de rétention pour accueillir de façon provisoire des familles dans des conditions acceptables. Ça me paraît plus simple que d'imaginer qu'on sépare les mineurs des parents.
Donc vous ne voulez pas les séparer, vous préférez les mettre dedans. La question, et ce sera la dernière, il y a une semaine, Emmanuel Macron prononçait un discours plein d'humanité devant les évêques de France, et le texte, c'est vrai, est dénoncé comme assez inhumain de ce point de vue-là par certains de vos députés.
Je pense que la séparation des enfants et de leurs parents est assez inhumain, et je pense que du coup, si on considère que parce qu'il y a un enfant, personne ne doit être placé, ni les parents, ni personne, en situation de rétention, c'est accepter que le droit en France, notamment celui de la reconduite à la frontière, ne soit pas appliqué. On a fait ça, globalement, massivement, depuis de longues années. Il faut y mettre un terme, il faut respecter le droit français.
Juste, et les députés qui voteraient contre le texte seraient exclus ?
Non, ça c'est la décision de Richard Ferrand.
Votre avis ?
Non, mon avis est que je ne pratique pas la chasse aux sorcières, mais surtout, je suis convaincu que celles et ceux qui aujourd'hui ont des doutes rentreront dans le bon sens. Quand une décision a été défavorable à certains, ils ont su l'appliquer. Je pense à Notre-Dame-des-Landes. Il y a beaucoup de parlementaires, par exemple, qui pensaient qu'il fallait faire Notre-Dame-des-Landes. Ils ont accepté la solidarité d'ensemble.
Merci beaucoup, Christophe Castaner, d'avoir été notre invité ce matin sur RTL.